Bonjour à toutes et à tous, balade en été vous emmène aujourd'hui à Chartres. Et oui, on va pas faire beaucoup de kilomètres, mais on va tout de même voyager dans le temps en seconde partie d'émission, puisque nous ferons l'écho de l'exposition de la médiathèque de Chartres consacrée au fameux chauffeur d'Orgères. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais dès à présent, je vous propose de prendre le train, pas n'importe quel train, le petit train touristique qui sillonne d'avril à octobre les rues de Chartres. Ce petit train est conduit par Yannick Lemestre et il nous raconte son histoire.
En fait, le petit train a été créé par Brigitte Houdinière, qui était la directrice de Promotrain, qui avait le petit train à Montmartre, à Deauville, à Fontainebleau. Elle a monté beaucoup de petits trains. Et c'était en 1988 qu'elle a fait la demande à la ville de Chartres. Et pendant 2 ans, donc, ça a fonctionné comme ça. Et je suis arrivé, moi, en juillet 90 pour 3 mois. Et je suis resté.
Qu'est-ce qui vous a plu?
Bah, d'abord, je suis tombé sous le charme de la ville. C'était vraiment un coup de foudre pour moi. Et je suis resté donc pendant 6 ans, 7 ans en tant que salarié. Et en 97, j'ai racheté l'affaire.
Oui, donc on est bien clair, c'est une entreprise. Ce n'est pas une propriété de la ville de Chartres ou une délégation du tout. C'est une entreprise.
Bah, souvent, les gens pensent que le petit train appartient à la ville de Chartres, mais ce n'est pas le cas, effectivement, c'est privé.
Alors, l'itinéraire, parlons-nous de l'itinéraire qui emprunte toutes les rues historiques de Chartres.
Oui, enfin, quand on dit l'historique, il y en a aussi dans la ville haute, mais il y a la ville basse aussi. C'est les quartiers donc de la basse ville qui longent les bords de l'Eure, qui longent également les monuments historiques, que ce soit Notre-Dame de la Brèche, que ce soit la collégiale Saint-André. Ensuite, il y a l'église Saint-Pierre. Et on a de belles vues sur l'église Saint-Aignan aussi. Donc, effectivement, il y a pas mal de trajets. On évoque aussi les métiers du Moyen-Âge, avec les lavandières, mais également les métiers qui permettaient de travailler le cuir, la peau.
Et ça donne aussi à Chartres un petit air de ville, de bord de mer, moi, je trouve, ce train. Il est agréable aussi pour les chartrains.
Oui, en fait, ça, je ne sais pas si c'est le bord de mer. En tout cas, ça permet de faire découvrir la ville. Il y a un côté effectivement très touristique dans le petit train, mais également très aussi pratique pour les gens qui ont du mal à descendre ou qui n'ont pas beaucoup de temps pour descendre également. Mais il y a aussi des grands-parents avec leurs petits-enfants, des choses comme ça. Donc j'ai la clientèle chartraine avec de la famille qui arrive, à qui ils ont envie de faire découvrir la ville. Ou alors ça peut être aussi des étrangers ou des Français d'autres départements.
Ouais. Combien de personnes à peu près prennent le petit train par an? Vous avez des chiffres? J'imagine que vous devez étudier aussi l'affluence.
Oui, il y a à peu près 22 000 personnes qui prennent le train chaque année. Et on a développé un peu plus grâce à Chartres en Lumière. Depuis 8 ans, 2008, j'ai commencé pour Chartres en Lumière. Et ça a effectivement permis d'avoir plus de clientèle encore. Et le petit train est apprécié pour permettre de voir Chartres en Lumière, qui se fait en 45 minutes, alors que si vous le faites à pied, il y en a bien pour 2 heures, 2 heures et demie.
Vous ne faisiez pas de visite nocturne avant Chartres en Lumière?
J'avais commencé, j'avais essayé en 1992-93, mais comme il n'y avait pas d'animation visuelle ni sonore en basse ville, ça n'avait pas beaucoup marché.
Alors, il faut connaître un tant soit peu l'histoire de Chartres quand on fait ce métier. Alors, vous avez potassé dans les bouquins, comment ça s'est passé?
Au départ, il y avait un commentaire qui m'avait été fourni par la société. Bon, maintenant, comme ça fait quand même quelques petites années que j'y suis, oui, je me suis, moi, documenté. J'ai eu les conseils de guides conférenciers de la ville. J'ai aussi Madame Masson, qui était la directrice de l'ancien office du tourisme, qui m'avait fait un grand texte également. Enfin, j'ai des guides de la ville qui m'ont aidé, d'ailleurs, que je remercie, et qui m'ont permis d'étayer et de corriger les petites erreurs ou les imprécisions que j'avais.
Est-ce qu'il y a des petites anecdotes comme ça qui reviennent, mais que vous nourrissez d'année en année? Vous avez un petit carnet comme ça d'historiettes à raconter aux touristes?
Oui, je raconte toujours des petites choses. J'essaie de faire en sorte que le commentaire soit vivant et agréable pour les gens, et de façon à ce qu'ils ne décrochent pas dans le commentaire, parce que j'essaie de trouver un compromis pour que les gens, en fait, qu'ils soient pas saoulés par les informations, qu'il n'y en ait pas trop, mais qu'ils en aient quand même assez parce que je n'ai pas envie d'avoir. Je n'aime pas que le petit train soit comme un attrape-touriste, donc je veux que ce soit quelque chose de ludique, un peu culturel quand même aussi, puisque j'ai finalement toutes sortes de personnes et de catégories sociales et professionnelles dans le petit train. J'ai des gens cultivés comme des gens plus populaires, des jeunes comme des plus anciens, et donc c'est bien.
Il faut faire plaisir à tout le monde.
C'est ça, il faut faire plaisir à tout le monde et en même temps que tout le monde soit satisfait. Donc j'essaye. Alors de temps en temps, il y a des petits grincheux, hein, mais sur 22 000 personnes, on va dire qu'il y en a une vingtaine, une trentaine par an, donc c'est pas très grave.
Est-ce que vous avez un petit livre d'or où les gens peuvent noter leur...
Non, j'ai pas de livre d'or. Je l'ai dans ma tête et j'ai une petite anecdote où je dis souvent pour les enfants quand on descend là, parce que j'ai aussi les écoles au mois de mai, au mois de juin, souvent qui font une sortie de fin d'année scolaire. Et je dis toujours en descendant la rue Muret qu'ici n'ont pas peur et s'ils sont sages, après ils auront des carambars aux épinards. Et l'année suivante, j'ai eu un professeur qui m'a emmené à un carambar vert, par exemple.
Alors le petit train, il a donc à chaque fois, c'est évidemment le retour du beau temps. Quand on voit arriver le petit train, qu'on est à Chartres, on se dit ça y est, c'est le printemps. Et là, il a été repeint aux couleurs du printemps. Là.
Non, il n'a pas été repeint, il est neuf.
Tout neuf.
Oui, il est tout neuf. Il date de cette année. Donc, j'avais un train qui avait 15 ans et celui-ci est tout neuf. C'est une société portugaise qui fait ce train. Le train précédent était français, mais il était en fait assemblé en France, mais c'était un train italien. Il n'y a pas de constructeur français. Donc, c'était un train italien qui s'appelait Prat d'Auto. Maintenant, c'est un train qui vient en dessous de Lisbonne. Et je suis allé voir l'usine au mois d'octobre pour voir comment ils fabriquaient le train. Mais bon, ils sont sérieux. Et donc j'ai acheté un train qui s'appelle de la marque Deltrain. Ouais. Voilà.
Et ça marche comment ?
Ça marche avec une base de Land Rover. Ça s'appelle, c'est sur la base d'un Defender et c'est une boîte automatique, un diesel et c'est bien.
Vous l'avez aussi choisi, j'imagine, pour l'aspect, pour la couleur, pour vous le vouliez comment ?
En fait, on n'a pas toujours le choix parce qu'il n'y a pas beaucoup de trains qui se vendent. J'aurais pu continuer à prendre le même train, mais j'avais envie de changer un peu. Là, en fait, il y a 3 places de moins, il n'y a plus que 57 places au lieu de 60, mais c'est 57 vraies places parce que le train s'est élargi de 10 cm et donc les gens sont plus à l'aise dans le train. Donc il y a 57 vraies places. Et la boîte automatique aussi, on est dans une voiture, donc c'est bon, la modernité des véhicules, comme quand vous achetez une voiture, que vous l'avez achetée il y a 15 ans et maintenant, c'est plus les mêmes voitures, ben, c'est pareil pour les petits trains.
C'est un gros investissement ?
Oui, c'est un gros investissement, on peut parler de plusieurs centaines de milliers d'euros, donc oui, c'est un gros investissement, mais bon, ça en vaut la peine et il faut un bon outil de travail pour travailler. Et j'ai pris la couleur, maintenant il est blanc et bleu. J'ai voulu faire une référence au vitrail de Chartres et le blanc pour synonyme de pureté, de sobriété.
Et dites-nous, l'ancien petit train, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Ah, lui, il est parti en Gironde. Il va finir sa vie du côté de Bordeaux, je crois.
Merci beaucoup. Vous allez peut-être nous donner quelques infos pratiques. Si on veut prendre ce petit train, se balader, on fait comment ?
Eh bien, il y a un numéro de téléphone. On peut aller sur le site du lepetittraindechartres.fr. C'est le site officiel du petit train. Et sinon, bien, c'est environ le matin vers 11h, l'après-midi vers 14h, environ toutes les heures. Le tarif est de 6,50 € pour les adultes et 3,50 € pour les enfants. On peut pas faire de réservation à l'avance. Et puis le soir, c'est 7,50 € et 4,50 €. Et c'est à la tombée de la nuit. Sur le site du petit train, on a l'horaire du prochain départ qui est du premier départ de la nuit qui est indiqué.
Et voilà, il ne vous reste plus qu'à monter en voiture et être sage si vous voulez un carambar aux épinards. Un grand merci à Yannick Lemestre et bonne continuation. Nous souhaitons longue vie au petit train de Chartres qui égaie les rues de nos villes le printemps, l'été et l'automne. On écoute de la musique et on se retrouve ensuite en compagnie de Catherine Merlin pour évoquer les chauffeurs d'orgères, objet d'une exposition à la médiathèque de Chartres.
Tu viens chez moi ? Ou alors on va chez toi ? Allez, Andy, quoi ? Ah, dis-moi oui. Chou.
C'était la version acoustique de Handy d'Erita Mitsuko. On salue la merveilleuse, la divine Catherine Ringer. Le 4 janvier 1798, un vieux laboureur, Nicolas Fousset, est assassiné dans sa ferme de Beauce, à mi-chemin entre Chartres et Orléans. Des brigands, surnommés les chauffeurs, l'ont torturé au feu pour lui faire avouer la cachette de son or. Il n'est pas le premier à être ainsi violenté, mais l'affaire va devenir une affaire d'État à l'époque où le directoire vit ses derniers soubresauts et appelle le consulat de Bonaparte. À l'occasion de la sortie du livre d'Alain Bouzy, La loi de la guillotine, la médiathèque explore un fait divers et un procès hors du commun. L'affaire des chauffeurs d'orgères. Nous avons rencontré Catherine Merlin, directrice de la médiathèque de Chartres. Elle revient sur cette étrange affaire. Elle revient surtout sur l'exposition actuellement visible dans son sanctuaire.
Terreur en Beauce, il s'agit de l'histoire des chauffeurs d'Orgères. Ces chauffeurs, qui étaient-ils, Catherine ?
Alors, peut-être faut-il replacer ça dans le contexte, parce que tout le monde ne sait pas que cette histoire de bande d'Orgères, en fait, s'est déroulée après la Révolution française, sous le Directoire, dans une période apparemment très, très mouvementée, où il y avait une grande disette. Et donc, en fait, le contexte économique, le contexte politique a fait qu'effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur le bord du chemin, qui avaient faim, qui ont quitté Paris et qui se sont regroupés pour en fait essayer de d'avoir de l'argent et pouvoir survivre dans un contexte très difficile. Et donc apparemment ce phénomène de bande de brigands s'est retrouvé un peu partout en France, mais cette bande d'Orgères qui était située aux confins de Chartres, Orléans, enfin vraiment dans la région de la Beauce, était importante, puisqu'on a parlé de pratiquement une centaine de personnes qui terrorisaient les fermes isolées dans la région. Et on les appelle les chauffeurs puisqu'en fait ils chauffaient accessoirement les pieds des fermiers pour leur faire avouer là où était caché le magot.
Et éventuellement, ils tailladaient le dessous des pieds pour que la flamme aille un peu plus loin quand même.
Voilà, oui, tout à fait. Il y a eu quelques affaires sordides. En fait, ils ont tué aussi. Alors, ils ont tué pas tant que ça. J'ai lu qu'effectivement, ils avaient tué 17 personnes en 7 ans. Et en fait, ils tuaient lorsque les gens n'avouaient pas où était caché leur magot ou lorsqu'ils étaient sûrs d'être reconnus. Parce que je crois que quand ils faisaient leur méfait, ils se cachaient un peu. Hein, voilà.
Alors, je crois qu'il y avait d'autres chauffeurs, puisqu'en lisant le livre, je me suis aperçu qu'il y avait les chauffeurs du Nord également, et qu'ils avaient pris plus ou moins exemple sur les chauffeurs du Nord, ces chauffeurs d'Angers.
Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ces bandes de brigands, il y en avait un petit peu partout en France. Alors c'est vrai que la bande d'Orgères, elle est connue localement, et l'objectif de cette exposition, c'était de ranimer un peu cette histoire locale ancrée localement, dont on a entendu parler, mais qu'on ne connaît pas forcément. On ne sait pas forcément à quelle période ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Donc c'était l'occasion à l'occasion de la sortie du livre d'Alain Bouzy, La loi de la guillotine, de réaliser une exposition sur le sujet.
Alors, je me suis aperçu en consultant l'exposition que cette bande d'Orgères avait inspiré d'autres auteurs et non des moindres. Je n'avais pas lu La Terre de Zola, et je vais le faire, mais il y est question des chauffeurs d'Orgères.
Tout à fait, effectivement, dans La Terre de Zola, c'est l'occasion de relire ce texte, c'est un très beau très beau texte. Il est fait mention à plusieurs reprises de cette histoire de bande d'Orgères. Donc vous pourrez lire des extraits de La Terre dans cette exposition. Il y a également des extraits du Beau François, de Maurice Genevoix, qui est aussi un texte littéraire qui s'est inspiré de cette histoire. Nous avons d'ailleurs projeté le film Le Beau François il y a quelque temps. Ouais.
Alors ce Beau François, c'était le chef, c'est ça ?
Alors c'était le chef, et c'est le seul qui en fait est passé entre les mailles du filet, puisqu'au final, il n'est pas passé sous la guillotine. Voilà, il a réussi à s'échapper de sa prison, et en fait, on n'a plus retrouvé sa trace vraiment.
Ouais. Donc plusieurs centaines, peut-être une centaine de membres, mais c'était jamais vraiment les mêmes quoi, qui faisaient les coups.
En fait, il y avait quelques figures emblématiques. Il y avait le fameux Beau François, il y avait le Borgne de Jouy, il y avait le Rouge d'Auneau. Ils avaient tous des surnoms assez incroyables. Et effectivement, selon les périodes, il y avait également des femmes, il y avait également des enfants. Donc je pense que c'est une bande qui a évolué au fil du temps. Il y avait des gens qui s'y rattachaient. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer le contexte de l'époque. Et ils se cachaient beaucoup dans les bois, en fait. Pour préparer leur méfait.
Des noms pittoresques, et vous avez d'ailleurs relevé les termes qui étaient utilisés par ces brigands, l'argot de l'époque,
oui,
qui est très parlant, Lucie.
Oui, tout à fait. Cet argot qui a été mis en valeur dans l'exposition et qui sera probablement réutilisé lors du spectacle que nous allons proposer dans le cadre des Journées du patrimoine, puisque nous allons proposer des lectures d'archives où il y aura certainement des chansons de l'époque et également ce patois, cet argot qui est très fleuri et qui est très intéressant de redécouvrir. Oui.
Alors, on a donc des panneaux, on a également un éclairage sur les fameux masques mortuaires de la bande d'Orgères.
Alors tout à fait, il y a une exposition patrimoniale avec des documents originaux qui sont présentés, donc des documents d'archives, d'archives municipales, d'archives départementales, des documents également imprimés qui nous appartiennent sur le procès, mais nous avons bien sûr présenté les fameux masques, les 21 masques mortuaires qui font partie des collections du musée des Beaux-Arts de Chartres, qui sont présentés au premier étage de la médiathèque jusqu'à la fin de l'année.
Masque mortuaire qui nous permet de rappeler la fin tragique de la bande d'Orgères.
Oui, puisqu'il y a eu 21 condamnés à mort qui ont été guillotinés près de la médiathèque. Et donc, en fait, après leur mort, il y a eu des masques mortuaires qui ont été réalisés, dont on a d'ailleurs quelques moules qui font partie des collections de la Société archéologique d'Eure-et-Loir.
Est-ce que cette affaire a généré beaucoup d'archives ? Vous avez fouillé dans les archives départementales ?
En fait, ça a généré beaucoup de littérature romanesque, en fait, parce qu'effectivement, je pense que ça a frappé, la population. Donc, ça a été repris longtemps après. On a parlé de cette fameuse bande d'Orgères. Et là, maintenant, on l'a un petit peu oublié. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu remettre un petit peu un focus là-dessus à l'occasion de la sortie de ce livre qui a eu beaucoup d'échos dans la presse locale, mais également nationale.
Alors parlons du spectacle qui aura lieu, c'est avec Antoine Marneur et Bruno de Saint-Riquier, un spectacle qui va reprendre des passages du texte, non ?
Tout à fait, donc en fait on a fourni un certain nombre de documents originaux, des pièces du procès, des interrogatoires, des échanges de courriers, bien sûr l'argot de l'époque, des chansons, et donc avec tout ce matériau, Bruno de Saint-Riquier va construire un spectacle qu'on appelle « Lecture d'archives », et qui s'intitule « La bande d'Orgères démasquée », qui sera présentée à la médiathèque en fait le samedi 17 septembre à 15h30, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.
Et puis l'auteur du livre, Alain Bouzy, sera également à la médiathèque pour présenter l'exposition, la commenter.
Alors tout à fait, nous allons accueillir à nouveau Alain Bouzy qui a donné plusieurs conférences chez nous et qui revient toujours dans le cadre des Journées du patrimoine le vendredi 16 septembre pour commenter en fait l'exposition que nous avons construite avec lui, grâce auquel nous avons pu par exemple récupérer des archives privées, puisqu'en fait nous avons un tableau qui vient du château de Villeprévost où ont été interrogés les fameux brigands.
Et une dernière info pour ceux qui ne connaissent vraiment rien à l'affaire des chauffeurs d'Orgères, c'est que le beau François, dont on a dit tout à l'heure qu'il était chef, eh bien il court toujours, non, mais ses descendants en tout cas.
Voilà, ses descendants courent toujours, effectivement. Voilà, c'était un chef emblématique qui a su échapper aux forces de l'ordre.
Voilà, vous connaissez l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur cette fameuse bande d'Orgères et le reste, vous l'apprendrez en visitant l'exposition de la médiathèque de Chartres Terreur en Beauce, la bande d'Orgères 1795-1800. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin de journée à l'écoute de nos programmes. On se quitte en musique. Allez, à très bientôt. Thank you.
Mama.